Merci pour ta grâce, ta fidélité et ton amour, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir recevoir ta parole. Et nous prions, Seigneur, pour que nos cœurs soient disposés à la recevoir avec humilité. Et, Seigneur, que cette parole puisse nous transformer au nom de Jésus. Amen. Nous lisons dans 2 Timothée au chapitre 3. De Timothée au chapitre 3. De Timothée, chapitre 3. J'attends que tout le monde trouve. De Timothée 3, nous lisons. C'est Paul qui parle. Paul parle à Timothée. Et Paul, bien que étant apôtre, avait aussi la grâce de pouvoir discerner comme un prophète les temps à venir. Et Paul dit à Timothée, sache que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà ce que Paul dit à Timothée. Paul, comme un prophète, voit les temps à venir. Et il dit que dans les derniers temps, les choses seront difficiles. Pourquoi difficiles? Parce que les hommes seront méchants. Ils seront calomniateurs, comme on vient de lire, rebelles, irréligieux. Donc tout ce qui touche à Dieu, aux religieux, à la création, ils vont s'attaquer à cela. Et au verset 1er, au verset 2, la première caractéristique, il dit que les temps seront difficiles. Pourquoi? Parce que les hommes seront égoïstes. Quand il parle des hommes ici, il ne parle pas seulement du genre masculin. Il parle de la nature humaine. Les humains seront égoïstes dans les derniers temps. Et à cause de cet égoïsme-là, ça fera que les choses deviendront difficiles. Les réalités deviendront très difficiles à supporter. De voir jusqu'à quel point un humain peut aller pour satisfaire ses désirs sans tenir compte des autres. C'est ça l'égoïsme. L'égoïsme, dans le dictionnaire, ça nous dit que ça vient du mot « ego ». Donc c'est-à-dire, c'est moi d'abord, c'est mon plaisir, c'est mon désir, ce sont mes convictions, c'est ma façon de voir, c'est ma façon de faire, c'est ma façon de parler. Peu importe ce qui arrive à l'autre. Que je dérange l'autre ou pas, ce n'est pas mon problème. Moi, tout ce qui compte, c'est moi. Et on nous dit ici, les humains seront égoïstes. Le thème de notre partage aujourd'hui, c'est « Ne cédons pas à l'égoïsme ». Entre parenthèses, l'individualisme. L'homme, naturellement, tel qu'il est, à cause du péché qui est entré dans le monde, l'homme a tendance à vouloir tout ramener à lui. L'homme a tendance à ce qu'on lui fasse plaisir à lui. On se rappelle d'une phrase de Jésus qui dit « Faites aux autres ce que vous voulez qu'on fasse pour vous ». Mais cette phrase-là, ce verset-là, ne colle pas avec la nature humaine parce que l'homme, tout ce qu'il cherche, c'est d'abord son intérêt à lui. Ce qui fait que quand tu veux faire des études, eh ben, tu choisis d'abord le cursus qui va t'arranger, mais surtout la rémunération. Combien je serai payé? Combien je vais gagner? Si on te propose de faire le même nombre d'études et une formation où à la fin de la formation tu gagnes 5000 euros, et le même nombre d'études où tu gagnes 1000 euros, ah bah je peux vous dire que les gens vont aller là où ils vont gagner 5000 euros parce que chacun cherche son intérêt à lui. Chacun recherche là où il sera gagnant. Donc, dans tous les choix que l'humain fait, eh ben, c'est toujours son intérêt. Quand je vais voter lors des élections présidentielles ou municipales, législatives, les gens votent en fonction de quoi ? Ils votent en fonction d'un programme. Mais le programme qui convient le mieux à leurs attentes. C'est ça. Donc moi, je ne veux pas voter comme toi parce que toi, tu vas voter un tel parce qu'il propose ceci, il propose cela. Moi, dans mon cas, lui, il me propose ceci, il me propose. Donc quand je fais la balance, je regarde, je dis où est-ce que je serai gagnant ? Alors, je veux voter en fonction de celui qui semble me promettre les choses que j'attends. C'est ça. L'humain est comme ça. Et on nous dit, dans les derniers temps, les humains seront égoïstes. Les humains seront individualistes. C'est ça, bien-aimé. Et comme on a dit tout à l'heure, la nature humaine est égoïste. La nature humaine est égoïste. On est comme ça. Tu vas t'habiller d'une manière, quelqu'un vient te dire, ah, mais regarde tel que tu t'es habillé là, ça dérange. Ah ben oui, mais moi je suis bien comme ça. Tant que moi je ne dérange personne. Mais non, mais oui, toi tu es bien, toi, mais tiens compte aussi de ceux qui sont autour de toi. Mais l'homme n'aime pas ça. Quand il fait des choses, c'est d'abord en fonction de ce qui l'arrange lui. C'est ça, l'égoïsme. C'est tout ramener à soi. L'égoïsme, c'est le fait de se préoccuper de soi-même. Le fait de vouloir vivre pour soi. Or, en vivant de cette manière-là, il y a des conséquences aussi autour de nous. Il y a des gens qui ont fait des choix, tout simplement par égoïsme, mais sans penser aux conséquences de leurs actes autour d'eux. Mais puisque ils sont égoïstes, c'est ça même l'égoïsme, c'est-à-dire que tu es persuadé que tout ce qui compte, c'est toi. Alors ça t'enlève le discernement de voir que, mais est-ce que mon attitude ne gêne pas les autres qui sont autour de moi ? C'est ça le problème de l'égoïsme. Et l'humain est comme ça. L'homme est, à cause du péché qui est entré dans le monde, est égoïste. Il cherche à tout ramener à lui. Il cherche à tout ramener. On voit parfois même les bébés. Vous mettez deux bébés ensemble, un bébé qui a un jouet, et bien l'autre va vouloir taper pour arracher le... Mais qui lui a appris ça ? C'est, voilà, le péché qui est entré dans le monde fait que... Et bien, chacun va vouloir la chose. Parfois, il a un jouet, il voit un deuxième avec un autre, il lâche le sien, il va, il tape l'autre, il prend l'autre, il arrache. Voilà. Et ça nous montre ce qu'est la nature de l'homme égoïste. Et Paul dit, les temps seront difficiles parce que l'humain ne va penser qu'à lui-même. Et on le voit aujourd'hui avec les différentes lois qui sont votées. On voit la loi qui est aujourd'hui en pourparlers, qui va passer à l'Assemblée nationale pour ceux qui suivent un peu la politique. La loi sur la bioéthique, c'est la loi sur la PMA, procréation médicalement assistée. Et je suivais une journaliste qui posait la question à la ministre, à la secrétaire d'État qui est chargée de la question. On lui disait, mais vous mettez en place ce projet-là, c'est-à-dire qu'il y aura une femme qui va porter une grossesse, donc elle aura une semence. Alors la journaliste lui posait la question, mais se pose quand même la question de la filiation, de la parentalité. Sur l'acte civil, qu'est-ce que vous allez mettre ? De l'enfant, parce qu'on pense aussi à l'enfant. Parce que ceux qui proposent ça, ils ne pensent qu'à eux. Et bien, bien souvent, c'est dans la plupart des cas, ce sont des couples homosexuels. Nous ne pouvons pas avoir d'enfant. Comme la loi mariage pour tous a été votée, maintenant, ils veulent légaliser maintenant un système, une loi qui autorise légalement en France, parce que dans d'autres pays ça existe, qui légalise finalement le fait de pouvoir avoir un enfant par un donneur extérieur. Alors, cette journaliste pose la question à la secrétaire d'État, elle dit oui, mais se pose la question de la filiation. Parce que là, vous pensez aux personnes qui sont adultes, la personne qui va porter le bébé. Mais est-ce qu'on pense à l'enfant ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Elle pose la ministre commence à bégayer. Non, mais nous n'en sommes pas encore là. Elle dit non, mais c'est une question sensée que je vous pose. Sur l'acte civil, qu'est-ce que vous allez écrire ? Vous allez écrire « parent 1 » parce que c'était ça le projet. Comme ils ne peuvent plus écrire « papa, maman » parce que maintenant il y a des couples « maman, maman, papa, papa » ils vont écrire maintenant « parent 1 »,« parent 2 ». Bien aimé, vous voyez là où la bêtise amène l'homme. Alors la jeunesse pose la question, elle dit, mais vous allez écrire quoi sur l'acte civil? Parce que nous, nos actes civils, c'est écrit papa, père, mère, mais vous allez écrire quoi? Elle commençait à bégayer. Non, mais nous allons réfléchir sur un système qui soit équitable pour... Mais non, c'est pas équitable! Parce que l'enfant qui naîtra voudra savoir aussi un jour, mais d'où il vient? Et en plus, parfois, le donneur, celui qui donne même sa semence, il a le droit d'être inconnu. Donc il donne, mais bien sûr, il a son argent après, un gros chèque. Mais tu t'imagines, tu vis en sachant que quelque part, tu as peut-être 10 enfants dans le monde. Mais ce n'est pas ton problème, parce que toi, tu as signé un papier. Mais est-ce qu'on pense à l'être qui va arriver après, à l'enfant qui va arriver après, qui va vouloir chercher aussi à savoir, mais d'où vient-il? Mais qui est son père? Mais voilà, c'est ce que Paul dit. Hein. Il dit, dans les derniers temps, nous sommes bien-aimés dans ces derniers temps-là. Parce que ce sont des choses, à leur époque, on se disait, mais comment est-ce possible? Mais aujourd'hui, nous sommes témoins pour voir que la bioéthique, le développement de la technologie, fait que l'homme, aujourd'hui, il y a même des sites où tu choisis les critères bien-aimés, comme si tu choisissais de fabriquer, de faire ton tacos. Vous savez, tacos, tu arrives, tu dis, je veux telle viande, je veux steak haché, je veux tel fromage, je veux ceci. Et finalement, tu fais ton sandwich. Et aujourd'hui, tu peux fabriquer ton bébé. On te dit les yeux de telle couleur, la forme de la bouche, je ne sais pas comment ils savent, la taille, parce que le père est un Suédois, c'est un grand, un blond. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de choisir à la carte. Bien-aimé, vous voyez jusqu'où va l'égoïsme de l'homme. L'homme est égoïste. Il ne pense qu'à soi, à son plaisir, à se satisfaire. L'égoïsme, c'est la volonté personnelle de faire des choix sans tenir compte des autres. C'est ça l'égoïsme. Et Paul dit dans les derniers temps, les choses seront très difficiles, très compliquées, dures à vivre. C'est cela, bien-aimé. On le voit lorsque on passe parfois dans les rues, où c'est flagrant à Paris, où tu passes dans le métro, tu es perdu. Eh bien, qui va s'arrêter pour te dire, tiens, le RER, il est là, il faut vraiment avoir de la chance pour tomber sur une... Parce que chacun, déjà, chacun a son casque, il a ses écouteurs. À peine tu dis bonjour, monsieur, c'est comme si tu le dérangeais, quoi. C'est un dérangement. Au point même où les gens se font agresser, personne ne bouge parce qu'on se dit, ah non. Moi, si je bouge, je vais me prendre un coup. Donc on part, ni vu ni connu. Mais est-ce que dans la conscience, tu es tranquille? Mais non, tu n'es pas tranquille. Tu vois quelqu'un se faire agresser normalement, tranquillement. Dernièrement, je sortais du travail et je vois une fille, je pense que c'était avec son copain, qui se fait violenter par le copain qui n'arrive pas à la faire tomber. À ce moment-là, moi, je m'arrête. Et le monsieur s'arrête, il me regarde, mais de manière agressive. Et donc moi, je m'apprêtais à descendre de la voiture pour dire, mais qu'est-ce que vous faites? En plus, c'était la nuit. Je m'apprête pour sortir de la voiture, il me regarde, et finalement, il s'arrête. Et il continue à marcher avec la copine. Je me suis dit, mais il jouait où? Parce que tel que j'ai vu, il était vraiment en train de la taper. Et beaucoup, je pense qu'à ce moment-là, on se dit, ah, à cette heure-là, moi, je ne veux pas jouer le justicier. Je trace ma route. Peut-être que le fait que j'ai fait mine de m'arrêter, ça l'a fait peur et il s'est ressaisi. Et c'est ça. Nous sommes dans un monde où les gens sont égoïstes. Combien aujourd'hui cherchent à échanger même avec les voisins? Qui? Combien? On se dit, ah oui, mais le voisin, il est bizarre. Le voisin, oui, mais toi, est-ce que tu fais ce qu'il faut pour ne serait-ce que dire bonjour? Tu trouves qu'il est bizarre, mais toi-même, tu es aussi bizarre. Parce que les humains sont de plus en plus égoïstes. Donc, les gens ne veulent pas avoir des comptes à rendre aux autres. Parce qu'ils savent que si tu lui dis bonjour, il te répond, ça veut dire que moralement, il a une dette. La prochaine fois que vous allez vous voir, il faudra que vous disiez bonjour. Mais comme lui, il n'a pas envie, quand tu lui dis bonjour la première fois, il préfère faire semblant. Il n'a pas entendu. Comme ça. 50-50, voilà. Tu as dit bonjour, lui, il n'a pas entendu, il n'a pas répondu. Chacun vit sa vie. Mais c'est ça, bien-aimé, la société dans laquelle nous sommes. Les humains ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. L'homme est méchant. L'homme est méchant. On voit tous ceux qui votent les lois. Ils votent les lois pour qui? Ils vont dire, mais c'est pour l'État français, c'est pour le peuple français. En réalité, ils votent les lois pour qui? Pour le peuple. Ce n'est pas pour eux, les lois. Ce n'est pas pour eux. Parce que la plupart qui votent ces lois-là, ce sont les premiers qui trichent. On se rend compte que toute la classe politique, finalement, est corrompue. Des escrocs, la plupart, je ne dis pas tous, mais la plupart, ils baignent dans un système depuis 30 ans qui a toujours été comme ça de malversation. Chacun profite du système. Mais en même temps, avec les autres, ils vont être très très durs. C'est la loi, c'est comme ça la loi a été votée. Ah oui, mais la loi a été votée pour les autres. Et quand c'est eux, tu vois le monsieur qui vient devant le journaliste, qui se met à pleurer, on dit, oh là là, il fait pitié. Ben, c'est ça, l'homme bien-aimé est égoïste. C'est ça la nature humaine. Mais maintenant, ce qui est plus grave, c'est ça le thème, c'est pour ça qu'on en parle. Ce qui est plus grave, c'est que l'égoïsme a atteint même les chrétiens bien-aimés. Les chrétiens, beaucoup sont devenus égoïstes, individualistes. C'est-à-dire, c'est moi. Tu rencontres un chrétien, il va te poser des questions. Moi, tu pries où? Quel est le nom de ton pasteur? Vous êtes combien? Après, la question qui tue, la dernière, c'est quoi ton ministère? Voilà. C'est-à-dire que chacun veut son ministère. C'est quoi ton? Ah, bien-aimé. C'est ça qui est plus grave. Les chrétiens sont devenus égoïstes. Aujourd'hui, le taux de divorce parmi les chrétiens est très élevé. J'ai oublié les chiffres que des Américains avaient fait en enquête. Et ils trouvaient même que dans l'église, il y a même, quand on fait le prorata, quand on fait le rapport entre le taux de divorce des chrétiens et ceux des païens, finalement, les chrétiens sont quasiment équivalents. Alors à quoi ça sert d'être chrétien? Parce que l'homme est toujours dans la recherche de son propre plaisir à lui. Il ne cherche que son plaisir. Or, Dieu nous a créés dans une logique de corps. Dieu ne nous a pas créés seuls. Si c'était le cas, alors on vivrait sans famille. On vivrait sans parents. Mais Dieu nous a créés dans une logique de corps. 1 Corinthiens au chapitre 12. Nous lisons ce que l'apôtre Paul nous explique. 1 Corinthiens, chapitre 12. C'est tout le chapitre, mais on n'a pas le temps de lire tout le chapitre. On va lire quelques versets. 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12. C'est facile à retenir, hein? 1 Corinthiens 12, 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés, on peut sauter au verset 14, pardon. Ainsi le corps n'a pas un seul membre, mais il a été formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Acte 2. Acte au chapitre 2, verset 42. Acte 2, 42. On peut commencer au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles par les apôtres. tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Voilà ce que nous venons de lire. L'apôtre Paul dit que dans 1 Corinthiens 12, que même s'il y a plusieurs membres, mais tous ces membres-là, en réalité, leur raison d'exister, c'est parce qu'ils sont assemblés au corps. Et c'est ça qui fait que l'œil a son importance, l'oreille a son importance, la bouche a son importance, le nez a son importance. Imaginez-vous que l'œil soit seul. Vous marchez sur la route, vous rencontrez quelqu'un, vous rencontrez un œil seul dans le noir comme ça, vous rencontrez un œil ou deux yeux, sans corps. Je pense qu'à ce moment-là, on va faire un sprint qu'on n'a jamais fait. Tu marches, tu rencontres juste un nez comme ça, dans le vide. Et l'apôtre Paul dit ici que tout cela a son importance. Pourquoi ? Parce que ensemble, c'est ça qui forme le corps. Et il dit, il prend cette image-là pour dire, il en est de même pour le corps du Christ. C'est-à-dire que nous sommes différents membres. On a différentes fonctions forcément parce que on n'est pas pareil. La main n'a pas la même sensibilité que le bras, par exemple, ou l'avant-bras. Il y a des choses que la main peut supporter, que l'avant-bras ou que une autre partie du corps, la cuisse, va mal supporter. La chaleur, par exemple, la main peut supporter une certaine chaleur. Mais la même chaleur, tu la mets sur la cuisse, ça ne fera pas le même effet. Voilà. Parce que Dieu a conçu les choses comme ça, parce qu'il sait que la main, on est amené à l'utiliser pour toucher beaucoup de choses. Et voilà. Et c'est comme ça. Et l'apôtre Paul explique ça. Il dit que nous avons tous différents membres, mais on a tous un objectif commun, c'est que tout fonctionne pour le corps. C'est ça. Et malheureusement, beaucoup sont individualistes. Individualistes. Chacun veut son rôle à lui. Chacun veut tirer la couverture vers lui. Chacun veut faire quelque chose d'extraordinaire qui sort du commun. Parce que les chrétiens sont devenus égoïstes. Ils sont devenus individualistes. On ne se contente plus de faire les choses simplement. Mais on veut faire quelque chose qui épate. On se rappelle ce qui s'est passé dernièrement en Afrique du Sud avec cet homme, Alf Lukau, qui a prétendu ressusciter un mort. Parce qu'il faisait des choses comme tous les autres, qui sont fausses. Hein. Paralytique, on voit des fauteuils roulants de wheelchair sur la chair, là, tout neuf. On se dit, est-ce que ça a déjà servi ? Vous voyez, jusqu'où l'homme arrive, je pense qu'il achète des fauteuils roulants tout neufs, il les met sur la chair et il dit, voilà, toutes les personnes qui ont été guéries, voilà. Mais comme tous les autres escrocs font la même chose, lui, il se dit quoi ? Moi, je veux passer un cran au-dessus. Je veux passer un cran au-dessus, je vais ressusciter un mort, voilà, comme ça, je vais dépasser tout le monde. Et bien, même les faux pasteurs, là, j'ai vu des vidéos, les faux pasteurs lui disent, ça, là, on ne peut pas défendre. Ça, on ne peut pas prendre sa défense. Il n'a qu'à nous expliquer ce qui s'est passé. Vous voyez, eux-mêmes les faux. Ils voient que l'autre les a dépassés. Ils disent, là, on ne va pas te laisser. Tu vas nous expliquer cette histoire-là, c'est comment ? C'est un cinéma ou pas ? Bien-aimé, c'est ça, là où l'homme arrive à cause de l'individualisme, à cause de l'égoïsme qui est dans l'homme. Voilà où on arrive à faire des choses qui sont tellement graves. Et comme je disais, l'individualisme est entré même dans les milieux chrétiens. Dans les milieux chrétiens. On dit ici, dans ce que nous avons lu dans 2 Timothée 3, Paul explique, il dit, les humains seront rebelles. On voit combien ne sont pas rebelles dans les choses de Dieu. Tu as l'esprit, nous aussi on a l'esprit. Il y a des gens qui n'acceptent plus l'autorité des pasteurs. Parce qu'ils se disent, lui il lit la Bible, il explique, moi aussi je peux lire la Bible et expliquer les choses. Si tel est le cas, mais gloire à Dieu, Mais maintenant, en arriver à vous obliger les autres à dire le pasteur, tout ça, ça n'existe plus. Ah, ça, c'est contredire la parole de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu arrives à lire un verset et à commenter que forcément Dieu t'appelle à cela. Mais c'est ça le problème, c'est que dans certains milieux, quand tu prends une Bible, tu t'habilles en costume cravate, tu parles français, on t'appelle tout de suite. Ah, pasteur, pasteur, pasteur. Alors que la personne n'est pas pasteur. Elle arrive tout simplement à expliquer des choses et voilà. Non, mais ce n'est pas ça. La parole de Dieu, c'est esprit et vie. Il faut non seulement la connaître, mais quand tu la transmets, tu transmets la vie aux gens. Sinon, tu transmets de l'histoire, tu transmets de la philosophie. Les gens vont écouter, ils vont être contents sur le coup, mais la vie n'est pas transformée. C'est ça. L'apôtre Paul dit, dans Éphésiens 6, il dit, « Priez pour moi afin que lorsque j'annonce l'évangile, que je l'annonce tel que le Seigneur le veut, afin que les âmes soient touchées. » Est-ce que Paul avait besoin qu'on prie pour lui pour qu'il annonce l'évangile? Mais bien sûr que non. Humainement parlant, bien sûr. Quand je lis ce verset, je me dis, Paul n'a pas besoin qu'on prie pour lui. Mais il comprend que, comme les choses de Dieu sont spirituelles, ce n'est pas la connaissance qui fait que les gens vont être touchés. C'est l'Esprit de Dieu. Pendant que tu parles, parfois tu vas dire quelque chose qui n'a rien à voir. Et à ce moment-là, la personne se convertit. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et aujourd'hui, beaucoup sont individualistes. Faut-il parler de YouTube aujourd'hui? Il suffit d'avoir un smartphone, d'être en Wi-Fi, connecté quelque part, tu te filmes à séminaire de restauration. Bien-aimé, c'est, tu vois, les petits jeunes, ils parlent, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Et il est suivi, il a sa chaîne, il fait ses séminaires, il fait ses choses, il fait ce... Parce que on t'a peut-être prophétisé un jour que toi, Dieu t'appelle, mais c'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. C'est peut-être vrai. Mais est-ce que c'est le moment de Dieu? Est-ce que c'est le temps que Dieu a voulu pour toi? Est-ce que c'est ce temps-là? David a été ou un roi, mais est-ce que David est arrivé au trône tout de suite? Non, Dieu l'a brisé. Dieu l'a brisé, Dieu l'a formé pendant longtemps, très longtemps, avant d'arriver. Pourtant, il avait déjà été ou un roi. C'est ça. Et aujourd'hui, on voit toutes sortes de choses. Chacun s'improvise. Bishop, chacun s'improvise tout ce qu'il veut parce qu'il y a beaucoup d'égoïsme. Parce qu'il y a beaucoup d'individualisme. On veut faire les choses par soi-même. On veut faire les choses par soi-même. Il y a des gens qui, ils viennent au culte comme on va à la fac. C'est-à-dire, j'arrive, je m'assois. Parfois, ils calculent l'heure. Ils savent que bon, de 10h à 10h30, 40, c'est la louange. Bon, la louange, moi, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, lui, il vient à 11h pour la prédication. Il prend son cahier, il écrit ce qu'il a à écrire. Quand la prédication est terminée, il part. Bien-aimé, c'est de l'égoïsme. C'est de ça qu'on parle. C'est de l'égoïsme. Ce sont des choses réelles. Tu vas dire, mes frères, mais... Ah, non, les chrétiens ont beaucoup de problèmes. Donc là, ça contredit ce qu'on vient de lire dans Acte 2. Dans Acte 4, on dit qu'il persévérait dans la communion fraternelle. Il partageait ensemble. Il est écrit dans le psaume 133. Il est écrit quoi, ceux qui lisent? Psaume 133. Ah, je n'ai pas entendu. Psaume 133, sans tricher. Psaume 133. Ah, mais voilà, bien-aimé, il faut connaître. Ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer unis ensemble. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel fait quoi? Il déverse sa bénédiction. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions que Dieu nous donne seulement quand nous sommes en communion fraternelle, bien-aimé. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions que tu auras seulement quand tu prendras plaisir à t'asseoir avec un frère, avec une sœur. À ce moment-là, toi, tu as peut-être... tu n'as pas de carburant. Or, Dieu a déjà pourvu. Il a déjà mis à cœur à un frère à dire, tiens, bénis tel frère avec 20 euros. Toi, tu arrives dans ta tête, bon, comment je vais faire demain? Je n'ai pas de carburant. Mais dans la communion fraternelle, le frère a dit, tiens, j'ai une pensée pour toi. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Voilà. Mais si tu pars tout de suite, C'est un exemple que je prends, mais il y a d'autres exemples encore. Parfois, c'est en discutant avec une personne. Tu as un problème, mais tu discutes avec une personne. La personne te dit, mais tu sais, le Seigneur est vivant. Il te raconte un témoignage et finalement, Dieu te parle. Dieu te bénit, c'est ça. Il y a des bénédictions qu'on ne reçoit que puisque nous sommes un corps. Puisque c'est ça qui fait plaisir à Dieu, d'être ensemble, de vivre la famille de Dieu. Et celui qui vit individuellement, quel est ce parent qui va se plaire de voir que ses enfants sont toujours en train de se disputer, l'autre est dans la chambre, l'autre est dans l'autre chambre. Il n'y a pas de vie de famille, mais je pense qu'une famille comme ça est une famille triste. C'est une famille triste. Une famille normale, selon Dieu, c'est une famille. Oui, il peut y avoir des temps où on a envie de se retrouver tout seul pour prier, pour travailler, pour faire peut-être, pour réviser, pour. Mais il y a des moments où on se retrouve ensemble, on mange ensemble, on se parle. Tiens, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment la journée s'est passée? C'est ça la famille selon Dieu. On partage et Dieu nous dit, eh ben, en tant que chrétiens, nous sommes aussi cette famille-là. Mais beaucoup se la jouent toujours solo. Il veut faire les choses seul. Il veut faire les choses seul. Il vient juste quand il faut manger. Il mange une fois qu'il a fini. Et parfois, il débarrasse même pas son assiette, il est parti. Voilà. Et beaucoup de chrétiens sont comme ça. Lui, il vient, il prend ce qu'il a à prendre. Et il parle. Mais à quoi ça sert de venir prendre alors? La prédication, la parole, si ça ne t'amène pas à aimer les gens, à prendre plaisir, à être avec les autres. À quoi ça sert? La famille que nous sommes, c'est l'échantillon de la famille que Dieu veut que nous soyons et que nous serons au ciel. C'est ça ce que le chant dit, going together, enjoying the trip, going together. Enjoying the trip, getting used to the family. Ce chant dit, getting used to the family. Donc, habituons-nous à nous aimer comme une famille sur la terre, parce que en s'habituant comme ça, au ciel, c'est ça qu'on va retrouver. Alors, habituons-nous déjà sur la terre. Si tu ne révises pas pour ton contrôle, tu n'as pas de bac blanc, tu n'as pas de. Bah, le jour du bac, ça risque d'être une grosse surprise. Alors, on t'entraîne, le prof va venir, ah, bac blanc. Ah, contrôle continu. Le but, c'est quoi? C'est que le jour du bac, tu es déjà prêt parce que tu as eu des entraînements, tu t'es préparé. Si on te pose telle question, comment tu vas répondre? Parfois, il y a même des oraux aussi blancs, enfin des entraînements comme ça, même parfois pour des grands diplômes où on va te coacher, on va dire non, parle comme ça, on va te chronométrer 5 minutes, 10 minutes, reparle. Mais le but, c'est quoi? C'est que le jour J, que tu fasses ce que tu as déjà fait là. Mais si toi, tu n'es pas habitué à ça, ah bah, déjà, je doute fort que tu ailles au ciel dans ces conditions-là. Mais même si c'est le cas, mais tu seras l'homme le plus triste. Parce que sur la terre, c'est ce que ce chant dit, on doit s'habituer déjà à s'aimer, à se supporter, à s'exhorter, à s'encourager. On doit s'habituer à ça. Mais l'égoïste, lui, ne supportera pas ça. Lui, tout est tourné vers lui. On doit me faire ci, on doit me faire ça. Bien-aimé, on retrouve ça dans les milieux chrétiens. Des gens qui viennent juste pour prendre. On dit, mais frère, tel était là, sœur, tel était là. Elle est déjà partie. Voilà. Donc, il est venu calculer le temps. Il sait que là, on ne pourra pas me dire bonjour. Il vient. Quand il a fini, il est parti. Comme ça, pas de problème. Mais c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Et le Seigneur nous exhorte. Il nous dit, sortons de cela. Sortons de cela. Ne cherchons pas à faire des choses par nous-mêmes. Si tu estimes que Dieu t'appelle à le servir, alors persévère dans la simplicité, dans l'humilité autant convenable. C'est Dieu qui t'élèvera, c'est Dieu qui t'établira, c'est Dieu qui utilisera les hommes pour te reconnaître. Mais beaucoup sont dans un niveau où finalement les autres n'ont plus rien à leur apprendre. J'ai discuté avec une personne une fois qui me parle de la Sainte-Seine. Il me dit, non, moi j'estime que la Sainte-Seine, telle qu'on l'a fait là, c'est pas biblique. Bon, moi je connais les enseignements un peu, d'où ils tirent ces enseignements-là. Il dit, non, telle qu'on fait la Sainte-Seine, c'est pas biblique. Nous, on devrait faire la Sainte-Seine de telle manière, de telle manière. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, nous, tel qu'on fait la Sainte Cène, l'objectif, c'est de nous souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Et de nous souvenir ensemble de ce que le Seigneur a fait pour nous. On voit même que Paul, lorsqu'il en parle dans 1 Corinthiens 11, il reprend les Corinthiens, parce que les Corinthiens étaient un peuple qui avait beaucoup de dons. Et il commençait à s'enorgueillir. Il disait, moi je parle en langue, moi je fais des prodiges, moi je fais ceci. Et Paul dit à ces gens-là, il dit, mais vous vous réunissez tous les jours, mais ce n'est même pas pour être meilleur. Vous vous réunissez pour devenir pire. Et il dit, dans ce cas-là, comme j'entends, quand vous vous réunissez pour la Sainte Cène, parce que c'était des vrais repas, c'était des festins à cette époque-là. Et qu'est-ce qui se passait? Eh bien, il y en avait qui mangeaient tout. Et quand les autres arrivaient, il n'y avait plus rien à manger. Et Paul dit, dans ce cas-là, pour éviter les problèmes, mangez chez vous et venez pour qu'on partage juste quelque chose. Comme ça, tout le monde en aura. Mais l'égoïste, lui, il va vouloir tout prendre pour lui. Alors le frère me dit, non, mais... on dit que voilà, donc moi je ne suis pas convaincu de la façon dont vous faites la Sainte Cène. J'ai dit, oui, tu es libre, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais moi aussi je te dirais qu'il y a aussi des gens qui estiment que la Sainte Cène doit être faite la nuit. Pourquoi? Parce que le souper. Voilà. Donc, et il y a des gens qui disent, non, la Sainte Cène, on ne doit pas faire le jour, il faut faire seulement la nuit parce qu'eux, ils ont fait ça la nuit. J'ai dit, bien aimé. Je dis, ça c'est ta conviction. Moi en tout cas, ce que je retiens de l'enseignement de la Sainte Cène, c'est quoi? C'est se souvenir de ce que le Seigneur a fait. Maintenant, si tu fais ça le jour, tu fais ça la nuit, tu fais ça à midi, est-ce que ça, c'est ça qui va t'empêcher de te souvenir de ce que le Seigneur a fait pour toi? Bien-aimé, vous voyez où l'égoïsme arrive. On arrive à bâtir des doctrines. Comment on veut être? C'est ça que j'ai appelé l'individualisme. On veut être seul avec une révélation. Alors tous ceux qui font autrement sont dans la fausseté. Et je lui dis même, tu sais, frère, je connais un bien-aimé. Et n'importe, c'est pas n'importe qui, c'est Richard Umbrandt. Il y a son témoignage sur YouTube. Il dit que quand il était dans les prisons roumaines, il est resté longtemps dans ces prisons-là. Il dit que finalement, il a partagé l'évangile en prison. Les gens se sont convertis. Et il dit, il célébrait la Sainte Cène sans rien du tout. Je ne sais pas si tout le monde comprend. C'est-à-dire qu'il n'avait rien. Parce qu'il n'avait même pas à manger. C'est la fameuse histoire qu'on nous raconte où il se partageait un sucre pendant des mois. Donc là, il célébrait la Sainte Cène sans rien. Mais lui, il dit ça avec humour, Richard Aumont. Il dit, nous, on célébrait la Sainte Cène avec rien. Parce que pour Dieu, même si tu n'as rien, lui, il considère que tu as quelque chose. Je ne sais pas si tout le monde me comprend. Je m'explique. Ce qu'il explique là, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce qui était important pour Dieu, c'était que les frères se réunissent là et se souviennent de ce que le Seigneur a fait. Mais comme eux, ils n'avaient pas du pain. J'ai dit à ce frère-là, bon, dans ce cas-là, parfois on va dans des endroits comme au Congo ou au Maroc où les frères qui se réunissent pour la Sainte Cène n'ont rien du tout. Ils n'ont pas du jus de raisin, ils n'ont, parce qu'ils disent non, c'est le fruit de la vigne, il faut que ça soit du vin, il faut que ça soit ci, il ne faut pas que ça soit ça, vous vous faites avec du jus. J'ai dit oui, d'accord, bon, admettons, maintenant tu te retrouves, tu vas au Maroc, là où il y a des étudiants, ils n'ont pas l'argent pour acheter du jus de raisin, ils n'ont pas l'argent pour... Ils font ça avec de l'eau, ils mettent un peu de sucre, ils partagent un petit peu dans les gobelets, ils disent bon, là on partage. Alors, dis-moi maintenant, ces gens-là, ils ont péché? Oh non, mais là, il faut aviser. J'ai dit, tu vois, l'égoïsme, tu vois. C'est là que ça t'emmène. Le but, c'est pas ce que tu fais en soi. Le but, c'est quelle est la disposition de ton cœur quand tu fais les choses. C'est ça. Et Richard Rembrandt dit, comme eux, ils étaient en prison, ils n'avaient rien du tout. Là, ben, ils se réunissaient, ils s'asseyaient. Ils prenaient 1 Corinthiens 11. Ils lisaient là où Paul dit, voilà. Le Seigneur a dit, il rend le pain, il dit, ceci est mon corps, livré pour vous. Et ils bénissent le Seigneur. Et il chante. Il n'avait rien du tout. J'ai dit, donc tu vas me dire que ce frère-là, je lui envoie la vidéo, il me répond, il me dit, ouais, mais bon, je pense que le frère a tout simplement parlé avec l'émotion, mais il n'y a rien de... J'ai dit, ah, donc toi là, tel que tu es là, à Rouen ici, là, étudiant, tu penses que tu es plus spirituel que Richard ou moi. Bien-aimé, voyez un peu là où l'égoïsme conduit, l'orgueil, c'est ça. Et un peu d'humilité. Pour comprendre ce que l'autre te dit. Donc toi, tel que tu es là, finalement, tu es plus que Richard Rembrandt. Voilà. Parce que toi, tu as compris les choses. Lui, il a pas. Pourtant, lui, il est en prison à cause de l'évangile. Il a fait peut-être 20 ans en prison. Il est sorti de prison, tout abîmé, les pieds. Et il faisait des conférences, les pieds nus, parce qu'il ne peut pas mettre les chaussures. Tellement qu'ils ont été maltraités. Je dis, toi là, tu as compris les choses mieux que... Bien-aimé, c'est ça l'égoïsme. Dans les milieux chrétiens. Nous prenons un autre point par rapport à l'égoïsme. Éphésiens 5. Là, nous allons parler, nous venons de parler de l'égoïsme dans le système qu'on appelle église, dans les assemblées. Mais il y a une forme d'égoïsme aussi qu'on peut retrouver dans la cellule familiale, dans la famille. Éphésiens 5, à partir du verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà, c'est ainsi, verset 28, que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il y a une autre forme d'égoïsme, bien-aimé. C'est ce qu'on vit dans la famille. Ici, le Seigneur est clair. Il dit, femme, sois soumise à ton mari. Et comme on a l'habitude de le dire, la soumission dont il s'agit ici n'est pas l'esclavage. La soumission dont on parle ici ne veut pas dire que la femme n'a pas d'intelligence ou n'a pas de mot à dire dans ce qui se passe dans la cellule familiale. Au contraire, la soumission ici, c'est tout simplement un ordre de hiérarchie établi par Dieu. Le Seigneur dit ici, femme, sois soumise à ton mari comme tu le fais pour qui? Pour le Seigneur. Donc en autre terme, c'est-à-dire que donc tu ne peux pas te soumettre à Dieu sans te soumettre à ton mari, c'est contradictoire. C'est contradictoire. C'est contradictoire. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que beaucoup de femmes vivent finalement de manière égoïste. Non, moi je vais aimer, je vais me soumettre, pardon, quand il va m'aimer. Mais ce n'est pas écrit ça. C'est pas écrit ça. Donc dans ce cas-là, toi, tu vas obéir à Dieu seulement quand il va te bénir, alors. C'est ça la question que je te pose. Donc tu vas obéir à Dieu, tu vas dire à Dieu, non, Seigneur, je ne t'obéis pas. Je ne pardonne pas, je ne veux pas si. J'attends que tu me bénisses d'abord, ensuite je vais obéir. Non. Tu obéis, et ensuite, Dieu, s'il le veut, il te bénit. C'est comme ça que ça fonctionne. Et beaucoup aujourd'hui sont devenus égoïstes à l'image du monde, de ce qui se passe dans le monde, où les femmes sont finalement des collaboratrices de l'homme ou de son mari, ils sont des partenaires, ils sont des associés. Bien-aimés, c'est ça aujourd'hui ce qui se passe. On est associés. Et un associé, qu'est-ce qui se passe? Dans une entreprise, quand les objectifs commencent à diverger, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare parce que, bon, moi, je prends ma part, je prends mes actions, je vais investir ailleurs. Ben, c'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est ça qu'on vit, bien-aimé. C'est ça qu'on vit. Quelque chose ne te plaît plus. Ça ne te plaît pas. Ah ben voilà, ben moi voilà, je prends ma décision. Je veux partir. Je veux faire ceci. Je veux faire cela. Bien, c'est là qu'on arrive, bien-aimé. C'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Il y a des femmes qui veulent jouer le rôle de l'homme parce qu'ils estiment que c'est le bon rôle. Et parfois, on va trouver des excuses pour dire « Non, mais il ne m'aime pas. Mais non, mais il ne fait pas ça. Mais non, mais il ne fait pas... » Bien-aimé, c'est de l'égoïsme, tout simplement. C'est de l'égoïsme. Et comme on a lu, l'égoïsme vient avec un lot de choses, hein, avec avec la rébellion, avec finalement le fait d'être irréligieux, c'est-à-dire de ne même plus être sensible à Dieu. On a lu, les hommes deviendront insensibles, on va t'apporter la parole de Dieu. Tu diras non, moi j'ai décidé comme ça. Mais ce qui est plus grave, c'est quoi? C'est qu'il y a des conséquences derrière, bien-aimé. Il y a des conséquences. En refusant de te soumettre à ton mari. Mais il y a les enfants qui sont là, qui t'observent. Il y a les enfants qui sont là, qui t'observent. Un jour, ben, ces enfants-là, ils feront aussi la même chose. Un jour, ces enfants-là, quand ils vont se marier, ils auront le même comportement parce qu'ils ont vu maman faire des choses comme ça. Ils auront la même attitude. On ne donne que ce qu'on a reçu. Donc si tu as reçu ce modèle-là, un jour, tu finiras par le donner aussi. Alors beaucoup pleurent aujourd'hui en se disant, mais je ne comprends pas, j'ai pas... Repends-toi. Repends-toi de ce qui a été fait peut-être avant toi. Repends-toi de ce que toi aussi tu as fait aux gens et qui revient aujourd'hui comme un boomerang. La Bible dit dans Galates 6, 7, on ne moissonne que ce qu'on a semé. On ne moissonne que ce qu'on a semé. Tu veux la conversion de tes enfants, en même temps, tu es insoumise. Tu es impolie même, excusez-moi le terme. Mais en même temps, c'est quand il faut prier là, c'est toi qui prie fort, bien-aimé. Quand l'enfant te regarde, il rigole. Il va dire, avec ça, tu vas me dire, convertis-toi. Mais jamais de la vie. Lui, il dit, je préfère être honnête avec Dieu. Je préfère ne pas vouloir de Dieu. Que vouloir de Dieu et me comporter comme ça. Bien-aimé, c'est ça l'égoïsme. L'égoïste, il va toujours vouloir donner des exigences. Je veux bien, mais à condition que, il faut que, d'abord, donc c'est toujours moi, mon intérêt. Et ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas une bonne attitude. Là, le Seigneur nous donne le fonctionnement de la cellule familiale. Comment la cellule familiale doit fonctionner. Pour qu'elle fonctionne bien, il faut que chacun soit à sa place. Que chacun soit à sa place. Mais l'égoïsme, il va vouloir contrôler. Mais comme il veut contrôler et que ça ne marche pas, eh ben, il va finalement se fâcher. C'est ça. Et de la même manière, on nous parle aussi des hommes. On dit, homme, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Qui s'est fait quoi? Qui s'est sacrifié pour elle. Et il y a des hommes qui passent leur temps à être tout simplement des loups. Comme un lion dans les troupeaux de lions. Le lion, il attend que la lionne aille chasser. Et quand elle revient avec le butin, il vient, il prend la nourriture. Voilà. Il n'attend que ça. C'est de l'égoïsme aussi. Oh, j'aime pas ma femme parce qu'elle me fait honte, elle me parle mal, elle n'est pas soumise. Non, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Le Seigneur dit, aime-la quand même. Il est écrit dans Romains 5, à peine mourrait-on pour les justes, mais Jésus-Christ est venu mourir pour nous qui étions injustes. Jésus n'a pas demandé, comme on chante, tu n'as pas exigé de garantie. Donc, il n'a pas exigé une garantie pour mourir à la croix, non. Il s'est donné tout simplement. Il s'est donné, croyant que l'acte qu'il faisait suffirait pour nous amener, nous, à être transformés, à être sauvés. C'est cela. Et on vit l'égoïsme dans les foyers. Bien-aimés, ce sont des réalités. Il y a des couples aujourd'hui. Je ne veux pas me mettre à dire que ceux qui font ça pêchent, non. Mais il y a des couples aujourd'hui où même la question de l'argent, c'est une question, chacun vit sa vie. Donc le mari travaille, la femme travaille, le mari a son compte, la femme a son compte, chacun gère, ni vu ni connu. Donc toi, tu t'occupes de tes oignons, moi je m'occupe de mes oignons. Et ça, c'est pas normal. Je ne suis pas en train de dire qu'avoir des comptes séparés, c'est un péché, c'est pas ça que je dis. Mais on vient de lire là que se mettant ensemble, ils font quoi? Ils deviennent une seule chair. Et l'apôtre Paul dit au verset 31, on va relire. Comme ça, on dira que c'est pas moi qui dis. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis ça par rapport à Christ et à l'Église. Voilà, du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. C'est écrit, c'est pas moi. C'est ça. On dit, comme toi tu t'aimes là, homme, alors aime aussi ta femme. Comme on a dit tout à l'heure, l'égoïsme c'est quoi? C'est vouloir tout s'attirer vers soi. Comme j'aimerais être toujours bien présentable, une belle chemise, une belle cravate, un beau pantalon, une belle ceci, un beau ceci. Le Seigneur te dit, ce que toi tu veux pour toi là, désire ça pour ta femme. Et même pour tous ceux qui sont autour de toi. Désire la même chose. D'abord pour eux. C'est ça. C'est ça. Et on dit qu'on est un seul corps, une seule chair. Ce qui fait que l'homme a le droit de regard sur ce que sur le compte de la femme. La femme a le droit aussi de regard sur le compte de l'homme. Mais comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, chacun vit sa vie. L'autre envoie l'argent en Afrique, là-bas, l'autre ceci, l'autre ceci. Donc, chacun fait à sa sauce. Comme je travaille, je suis indépendante. Je fais ma vie. Et le jour où ça chauffe, je sais que moi, j'ai déjà mis de côté. Il y en a même qui mettent de côté, même avant. En cas de coup dur. Mais comment tu peux prévoir un coup dur? En cas de coup dur, tu mets déjà une somme à côté. Comme un collègue, quand j'étais ivre, me dit, oui, moi, si je me marie, je me marie avec le contrat de mariage. C'est-à-dire que tu signes un contrat en disant, bon, le jour où ça chauffe, je prends... Il me disait avec humour, mais je pense que c'est peut-être vrai. Donc, ils ont tout en double dans la maison. Tout est en double. On achète une télé, lui aussi, il achète sa télé. On achète un micro-ondes, lui aussi. Des couverts, un jeu de couverts, 15 couverts, lui aussi. Comme ça, le jour où ça chauffe, lui, ils ont le double. Donc, l'autre garde la moitié, l'autre prend la moitié. Bien-aimé, vous voyez là où on arrive. C'est ça, l'égoïsme. Alors, comment on peut vivre ensemble dans des conditions comme ça? Si on prémédite déjà, on se dit au cas où. voilà, c'est ça. Le diable va utiliser ce au cas où là pour bien détruire. Mais malheureusement, quand il détruit comme ça, toi, tu es adulte, tu dis, bon, je veux refaire ma vie. Mais maintenant, il y a des enfants aussi. Il y a des enfants aussi qui sont là, qui vont souffrir de cette situation-là. Toi, tu tombes amoureux de quelqu'un, mais les enfants sont là. La personne va être bien avec toi, mais ça ne garantit pas que cette personne-là sera bien avec les enfants. Les enfants vont souffrir de situations. Pourquoi? À cause de l'égoïsme. Ne cédons pas, bien-aimés, à l'individualisme. Ne cédons pas à l'égoïsme. Là, le fonctionnement familial que Dieu nous donne, c'est pour nous dire qu'on doit respecter ce schéma-là. Et Paul dit, je ne dis pas ça à cause de vous, je dis ça à cause du mystère. Le mystère de Christ, il dit, ce mystère est grand, je dis cela à cause de Christ et l'Église. Il veut dire que le mariage, c'est l'image. Comme j'ai dit tout à l'heure, le fait qu'on vive la communion fraternelle, c'est l'image de ce qu'on sera ensemble avec notre Père au ciel. Et il dit que le mariage, c'est l'image de l'union entre Christ et l'épouse que nous sommes, l'Église. C'est une union qui est indivisible. Personne ne peut toucher à ça parce qu'elle est sacrée. Et dans cette union-là, qu'est-ce qui se passe? Parfois, il nous arrive de désobéir. Il nous arrive de pécher. Mais qu'est-ce que fait le Seigneur? Il nous pardonne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. 1 Jean 1, 9, le Seigneur te relève, il dit, allez mon fils, allez, marche, Jésus-Christ a payé, a donné sa vie pour toi. Allez, avance, continue la marche, ne t'arrête pas. Tu tombes, il te relève encore, il dit, allez, continue la marche, je te soutiens, Jésus-Christ est là. C'est ça. Mais nous, quand l'autre fait une faute, voilà, il a fait une faute. Ah, c'est bon. Là, c'est fini. Là, c'est trop. Trop, c'est trop, là. Moi, rigole pas avec moi. On blague pas avec moi. C'est bon. Bien-aimé. Mais si le Seigneur faisait ça aussi avec nous, qui serait ici, là? Qui? Personne. Mais nous bénéficions tous de la grâce du Seigneur. Il nous arrive de nous fâcher, d'agir même sous la colère. Et le Seigneur nous pardonne. Mais de la même manière, le Seigneur veut que nous puissions aussi agir de cette manière-là. Que le Seigneur nous aide, sortons de l'égoïsme, refusons l'égoïsme qui te fait croire que tu as raison, c'est comme ça, d'abord toi, occupe-toi d'abord de toi, comme dans le monde ils disent, hein. Aide-toi d'abord le ciel, et ensuite le, je ne sais pas comment ils disent ça, voilà, ou chacun pour tous, chacun pour soi, Dieu pour tous, c'est faux, c'est pas biblique, certains pensent même que c'est biblique, c'est faux, c'est de l'égoïsme. C'est de l'égoïsme. Bien-aimé, être chrétien, c'est accepter la logique du corps. C'est le premier point qu'on a vu. Notre deuxième point, on finit, c'est être chrétien, c'est accepter de vivre pour les autres. C'est ça. Et il y a beaucoup de passages qui nous en parlent. On va lire Philippiens 2. Philippiens 2. Au verset 3, Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayant en vous les mêmes sentiments, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme proie arrachée d'être égal avec Dieu. On peut s'arrêter là. Voilà ce qu'on nous dit. On nous dit que dans notre façon de vivre, c'est ça, bien aimé, c'est ça être chrétien. Être chrétien, c'est accepter de vivre pour l'autre. Dans 1 Corinthiens 9, l'apôtre Paul dit quelque chose. Il dit, lorsqu'il parle des Juifs et des Grecs, il dit que je me suis fait tout à tous afin de gagner, s'il est possible, quelques-uns. Il dit, avec les Juifs, j'ai été comme un Juif. Avec les Grecs, j'ai été comme un Grec. Je mets une parenthèse à cela parce que beaucoup interprètent mal ce verset-là pour dire qu'avec les païens, je veux vivre aussi comme un païen. Non. Quand il dit ça, il dit avec les Juifs, j'ai été comme les Juifs, mais toujours conforme à la loi. Pas dans le péché, parce qu'il y en a qui vont aller évangéliser. Bon, ils fumaient. Bon, j'ai fumé aussi avec eux pour être dans l'ambiance, pour parler. Non, c'est faux. C'est faux. Quand il dit avec les Juifs, comme les Juifs, c'est-à-dire que dans leur façon de faire, si, avant de manger, il faut se laver les mains, il faut faire ceci, il faut... Bon, j'ai fait ça parce que c'est la loi, c'est écrit dans la loi. Ce n'est pas un péché, ce qu'ils font n'est pas un péché. Même si moi, je sais que finalement, en Jésus, on n'a plus besoin de faire tout ça. Mais je le fais quand même pour être un canal par lequel Dieu va passer. J'arrive quelque part, on me dit non, là, ici, bon, nous, on ne mange pas la viande de porc. « Oh, mais c'est pas normal, vous êtes des musulmans. Oh, » ben... Mais non, eux, ils disent qu'ils ne mangent pas la viande de porc. Donc, tu t'adaptes. Vous mangez quoi? On mange le mouton. Bon, aujourd'hui, on va manger le mouton. On va manger la chèvre. Voilà. Tu manges ce qu'il y a. Tu n'en fais pas une histoire pour dire « Mais non, mais vous n'avez pas compris. C'est pas ce qui rentre, qui suit l'homme. C'est ce qui sort de la bouche. » Tu vas commencer à expliquer les choses aux gens. Les gens te regardent et disent « Mais non, nous, on ne fait pas comme ça. Ben, » comment tu vas leur parler de Jésus? Non. Et je dis bien, c'est quelque chose qui n'est pas un péché en soi. Voilà. Maintenant, quand c'est un péché, ah non, on ne fait pas les choses. On dit non, moi, je ne fais pas ça. Parce que ce n'est pas bon. C'est ça. Et c'est ce que Paul dit. Il dit, je me suis fait... Donc, je n'ai pas regardé mon intérêt à moi. J'ai regardé d'abord l'intérêt du Seigneur. Donc, si les gens font comme ça, on entre dans la maison, il faut enlever les chaussures pour ne pas salir. Oh, mais vous faites comme les musulmans. Mais... La personne ne veut pas faire le ménage. Toi, tu viens de dehors. Il y a de la boue, il y a de la poussière. Mais respecte, enlève les chaussures. Voilà, si tu as des chaussettes trouées, tu enlèves vite les chaussettes. Tu rentres pieds nus. Mais respecte. Oh non, mais c'est pas normal. Moi, j'ai été affranchi. C'est l'orgueil. Et c'est être égoïste aussi. C'est être égoïste. Oh non, on mange pas avec les mains. Moi, je suis français. Tu vas quelque part, on t'invite Thieboudienne ou je sais pas quoi. Oh non, c'est trop... Non. Est-ce que c'est un péché de manger avec les mains? Donc, tu te laves les mains, tu manges, tu lèches bien la main, là, tu remets encore dans la gamelle. Voilà, mais voilà. Tu supportes, même si c'est dur, mais quand tu sors, tu dis ouf. Mais au moins, tu l'as fait avec l'objectif de sauver les autres. C'est ce que Paul dit, je me suis fait tout à tous pour gagner ne serait-ce que quelques-uns. C'est ça. Bien aimé, la vie chrétienne, ce n'est pas une vie d'égoïste. C'est une vie où on vit pour l'autre. On vit pour l'autre, c'est ça. Et le Seigneur dit dans Matthieu 22, lorsqu'il parle, il dit, le pharisien veut lui demander, mais quel est le plus grand commandement? Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu le serviras lui seul, et ensuite tu feras quoi? Il dit, voici, je te montre le commandement qui lui est semblable. Ça veut dire quoi? Le commandement qui est au même niveau. que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est lequel? Voilà, c'est ça. C'est ça. Comment vaincre l'égoïsme? C'est entrant dans l'amour. Dis, Seigneur, j'ai du mal à aimer mon prochain comme moi-même. Je l'aime peut-être, mais je ne l'aime pas comme moi-même. Parce que quand tu t'aimes toi, tu vas t'excuser des choses. Tu vas faire quelque chose de mauvais, mais tu vas quand même t'excuser. Toi-même, tu vas dire, bon, j'ai mal fait parce que ceci, parce que cela. Bon, c'est pas bien, il ne faut pas que je recommence. Alors, le traitement que tu as avec toi-même là est le même traitement envers les autres. C'est ça. Et ça, ce n'est possible que avec amour. Et nous avons besoin de ça. La vie chrétienne, c'est vivre pour les autres. Esther est une reine qui, pour aller voir le roi, devait être appelée par ce dernier. Et Mardoché vient voir Esther pour lui dire, regarde, il y a un édit qui a été signé par Aman et par le roi pour tuer tous les juifs. Et Mardoché dit à Esther, Dieu t'a mis reine pour que tu puisses penser à nous. Esther se dit, mais non, ce n'est pas possible. Moi, si je rentre dans la cour du roi, on va me tuer. Esther commence à être individualiste. Elle se dit, mais non, moi, si je rentre, on va me tuer. Le roi ne m'appelle pas, vous voulez que j'aille... Mardoché lui dit, écoute, sache que si toi, tu ne veux pas, la délivrance viendra de quelqu'un d'autre. Sache-le. Mais ne pense pas que toi, tu vas être épargné parce que tu es juive. Un jour ou l'autre, on va te tuer aussi. Alors Esther dit, elle envoie des messages, dit à Mardoché qu'il prie pour moi, qu'il jeûne. Et j'irai voir le roi. Et j'aime beaucoup ce qu'elle dit. Elle dit, si je dois mourir, je mourrai. C'est ça. Bien-aimé, je prends cet exemple-là pour nous montrer tout simplement que beaucoup à la place d'Esther auraient joué solo, individualiste. Ah, ils auraient dit, ah, là, débrouillez-vous, moi je suis dans mon palais royal. Je suis tranquille, la femme du roi. Et vous venez me chercher des problèmes pour... Non. Esther a cherché la cause du peuple. Elle n'a pas voulu être égoïste. Au même titre que Néhémie qui était dans le palais du roi. Il a jeûné pour son peuple en captivité. Le roi lui dit, mais c'est quoi ton problème? Il dit, mon Seigneur, je suis là, mais mon peuple est malheureux, il souffre, il est en captivité. Le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, écris une lettre, que j'aille voir mes frères. Le roi lui dit, allez, qu'il te soit fait selon ta volonté. Bien-aimé, c'est cela. Il aurait pu rester dans le palais royal, Néhémie, se réjouir. Mais non, c'est ça, beaucoup sont égoïstes, ils ne pensent qu'à eux, à leur plaisir, à jouir des choses, sachant qu'autour d'eux, les gens souffrent. Ce n'est pas bon, bien-aimé. Moïse, on nous dit dans Hébreux 11, verset 24, on nous dit, Moïse n'a pas voulu être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il a méprisé cela. On nous dit quoi? Qu'est-ce qu'il a préféré? Il a préféré souffrir avec son peuple plutôt que de vivre dans les palais royaux, dans un palais royal. Il a préféré souffrir avec son peuple. C'est ça. Sortons de l'égoïsme. Sortons de l'égoïsme. Manifestons l'amour. Pensons aux autres. S'il faut s'oublier soi-même, qu'on s'oublie soi-même. Bien-aimé, une des formes de prière que Dieu aime, c'est la prière d'intercession. C'est quoi la prière d'intercession? C'est une prière qu'on adresse à Dieu pour les besoins des autres. C'est ça. Dieu aime ce genre de prière-là. On prie pour les autres. Parce que ce qui est normal, naturel, c'est quoi? C'est qu'on prie pour soi. Mais quand on prie toujours pour soi, pour soi, pour soi, pour soi, alors qu'on sait qu'il y a des besoins autour, eh ben on devient égoïste, même si c'est la prière. Or, une des formes de prière que Dieu aime, c'est quand tu pries pour l'autre. Et quand tu pries pour l'autre, généralement, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu te bénit aussi. Salomon dit à Dieu, Seigneur, donne-moi l'intelligence pour gérer le peuple. Dieu lui dit, écoute, tu me demandes l'intelligence parce que ton souci à toi, c'est le peuple. Alors moi, je te donne maintenant la richesse, la sagesse que tu as demandée et plus encore. Voilà, c'est ça le fonctionnement de Dieu. Et bien souvent, on regarde à nous-mêmes, à nos propres problèmes. On le voit le mercredi, le jour de l'intercession. On compte les personnes. Hein. 3, 4, 5, 6, si on est 7, là, c'est très bien. Parce qu'il y a toujours une forme d'égoïsme en nous. prier pour le salut de la Normandie, bon. Est-ce que nous prions pour les chrétiens qui sont persécutés? Quelqu'un entre nous ici, là, s'est déjà mis chez lui à la maison, un jour il dit, bon, aujourd'hui je vais faire des recherches sur les chrétiens persécutés et je vais prier pour eux. En tout cas, s'il y en a, que Dieu soit béni. S'il y en a, que Dieu soit béni. Chacun pense à ses problèmes. Mon travail, mon mariage, mon mari, ma femme. Chacun pense à lui-même. Chacun pense à lui-même. Est-ce que nous pensons à tous ceux qui souffrent? Comme les Richard Rembrandt qui ont été emprisonnés. Est-ce qu'on prie pour ces gens-là? On est là toujours à se lamenter. Je n'ai pas eu ça. Je n'ai pas eu ça. Tel ne m'a pas dit bonjour. Je quitte l'église. Je fais ceci. On est dans des broutilles, bien-aimés. On était parti voir un frère, je termine là, de l'église persécutée, qui était venu présenter un petit peu l'état de la persécution. Et il disait une chose qui m'a touché. Il dit, bien-aimés, nous vous demandons une chose. Le message que je relaie de nos frères là-bas, c'est que... Alors là, tout le monde attend. Hein. On se dit, bon, les gens commencent à pleurer parce qu'il a raconté l'histoire. Ils ont mis des diapos, des vidéos. Et les gens commencent à préparer. Bon, quand il dit, je vous demande une chose. Comme on est dans un monde où il y a trop d'argent, les gens commencent à sortir des chèques sous l'émotion. Il dit, non, bien-aimé, je ne vous demande pas ça. Tout ce que les frères demandent là-bas, c'est que vous ne les oubliez pas dans la prière. Priez pour que, malgré la persécution, on garde la foi en Jésus. Parce que c'est ça le plus important. Bien-aimé, ça m'a touché. Je me suis dit, mais tous, on s'attendait à ce qu'ils disent, bon, soutenez-nous, envoyez des Bibles. C'est bien, hein, c'est très très bien. Envoyez de l'argent pour les missionnaires. Envoyez. Il n'a même pas demandé ça. Il dit, non, moi, on ne vous demande pas tout ça. Nous, tout ce qu'on vous demande, c'est garder la foi. Parce que si tu envoies l'argent, l'argent, on peut comme te tuer. L'argent va rester. Il dit, nous, ce qu'on veut garder, c'est notre foi. Mais on a besoin de vous. On a besoin de votre soutien. Et dites-vous, vous êtes en France, vous vous réunissez librement. Alors priez pour nous, pour qu'on tienne fort. Quand on entend qu'un frère a été tué là-bas, un frère a été égorgé là-bas, qu'on ne renie pas le Seigneur. C'est ça. Et bien-aimés, sortons de l'égoïsme. Ne cédons pas à l'égoïsme. Pensons aux autres. C'est ça la vie chrétienne, c'est penser aux autres. Quand on t'en fait un reproche, ne le prends pas seulement pour toi, mais prends-le aussi pour les autres, pour dire, mais qu'est-ce que ce reproche qu'on me fait a comme impact autour de moi? On te dit, mon frère, là, est-ce que tu as mis du déodorant, mon bien-aimé? Ah, non, comment, moi, c'est moi, je fais ce que je veux. Non, quand on te dit ça, c'est que peut-être que tel que tu es, ça dérange aussi les autres. Tu ne comprends pas que quand tu arrives, tout le monde s'écarte. Mais parce que bien-aimé, c'est ça. C'est l'égoïsme aussi, bien-aimé. On en parle parce que c'est ça aussi le rôle de l'Église, c'est dire aussi des choses. Prendre soin aussi de soi pour respecter aussi l'autre. Mais quand tu ne prends pas soin de toi, bah, tu ne te respectes pas toi-même, mais tu vas aussi indisposer les gens. Tu viens pour exhorter, tu viens pour prêcher, tu viens pour faire... Les gens sont dérangés par l'odeur. Voilà, c'est pas normal. C'est de l'égoïsme aussi. On se dit, non, moi je suis spirituel, c'est des choses de la terre, ça sert à rien du tout. Non, bien-aimés, pensons à tout cela, pensons aux autres. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, qui nous exhorte, Seigneur, à ne pas céder à l'égoïsme, Seigneur, qui nous prend très facilement, Seigneur, où nous avons tendance à vouloir... nous attirer, Seigneur, tous les bénéfices, Seigneur. Où nous avons tendance à penser à nous-mêmes et nous oublions de penser aux autres, Seigneur. Seigneur, tu nous connais, tu connais nos cœurs, Seigneur. Tu sais, tu connais le fond de nos cœurs. Et nous venons nous repentir aujourd'hui. Parfois, nous avons pris des positions. Mais nous avons oublié que ces positions-là font souffrir les autres autour de nous. Seigneur, nous prions pour que tu nous pardonnes, Seigneur. Nous avons l'assurance auprès de toi que si nous confessons nos péchés, tu nous pardonnes. Et nous venons profiter de cette grâce, Seigneur. Délivre-nous de l'égoïsme, au nom de Jésus. Merci pour ton esprit qui agit. À toi la gloire, au nom de Jésus. Je passe la parole pour les annonces.